bien entendu ? Contre l'Allemagne !
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, cinquième et dernier épisode de notre série consacrée au front méconnu de la Première Guerre mondiale. Loin de Verdun, en quoi la guerre de 14-18 fut-elle mondiale ? Question que nous nous posons avec l'historien Michaël Bourlet. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué la guerre méconnue des Balkans et la bataille de Caporetto dans les Alpes. Aujourd'hui, encore plus méconnue, ce que fut la Première Guerre mondiale en Afrique. En 1914, quand débute la guerre, pratiquement tout le continent africain est colonisé par les Européens. La France, le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se sont partagés goulûment le gâteau. Seuls deux pays échappent encore à la colonisation, le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Afrique et les Africains, auxquels on ne demande évidemment pas leur avis, sont impliqués dans la guerre d'abord parce qu'ils fournissent aux belligérants des matières premières, des soldats et de la main-d'œuvre. Mais aussi, on le sait moins, parce que durant toute la guerre, des combats sont livrés en Afrique. Chose incroyable même, les premiers coups de feu de la guerre 14-18 sont donnés en Afrique. À peine en effet la guerre est-elle déclarée en Europe, que sur place, les colons français et britanniques se mettent en tête de s'emparer des quelques colonies allemandes en Afrique.
La République a besoin de vous. Allez, on va approcher la table. Au nom de la France, je fais appel à tous les indigènes en bonne santé, de sexe masculin, qui voudraient se porter volontaire à l'égard de la France pour la durée des hostilités. Les registres sont ouverts, on s'unit.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Dès le 6 août 1914, les Français et les Britanniques attaquent et envahissent le Togoland. Cette colonie allemande située en sandwich entre le Dahomey français, aujourd'hui le Bénin, et le Gold Coast britannique, actuel Ghana. Une bataille éclair, puisque les troupes allemandes, très réduites sur place, capitulent au bout de 2 semaines. Il faudra en revanche 1 an et demi aux franco-britanniques pour conquérir le Cameroun, autre colonie allemande. Le bilan humain sera lourd. Chez les alliés, la mort de plus de 4000 soldats, en grande majorité des Africains. La guerre se poursuit contre la 3e colonie du Reich, le sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie. Un territoire immense, aride et souvent désertique, de plus de 800 000 km². En septembre 1914, les Britanniques, soutenus par les troupes d'Afrique du Sud, traversent le fleuve Orange, qui marque la frontière, et entament, à pied ou à cheval, une marche épuisante à travers le désert du Kalahari. Arrivés à Zandfontein, l'unique point d'eau de la région, ils sont attaqués et défaits par les Allemands. Un succès qui n'empêche pas leur capitulation 9 mois plus tard. La 4e guerre, celle contre l'Afrique orientale allemande, actuellement la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, est une autre paire de manches. Une campagne difficile et éprouvante pour les Britanniques, les Belges et les Portugais, qui ne s'achèvera qu'à la fin novembre 1918, donc après la signature de l'armistice du 11 novembre. Pendant 4 ans, une longue guerre de harcèlement faite de raids, d'attaques surprises, d'embuscades. Une guerre de guérilla où va s'illustrer un étonnant personnage qui donnera du fil à retordre à ses ennemis en leur résistant pendant plus de 52 mois, le commandant allemand Paul von Lettow-Vorbeck.
Le colonel von Lettow est notre plus grand ennemi et le meilleur stratège de toute l'Allemagne. Jusque-là, cet homme était un vrai courant d'air. Ceci pourrait être l'occasion que nous attendions. D'après mes sources, il se trouverait à 52 km au sud-ouest de notre position ici, près de ce lac.
Je doute fort qu'une telle occasion s'en présente.
La légende de ce combattant apparemment insaisissable, réputé pour la rapidité et l'ingéniosité de ses manœuvres, et qu'il ne s'est jamais avoué vaincu, sera après l'armistice une relative consolation pour l'Allemagne vaincue.
Alors c'est un officier allemand qui connaît très bien l'Afrique et qui va fonder sa stratégie sur 3 piliers, ses hommes, son commandement et son adversaire. Et donc, à partir de ces 3 ingrédients, il va réussir à mener une lutte où il va être insaisissable pendant toute la guerre. C'est lui qui tire le dernier coup de fusil de la Première Guerre mondiale, au-delà du 11 novembre. Et il va infliger des défaites lourdes aux Britanniques et aux Indiens. Il faut en parler aussi parce qu'en fait, on a un corps de l'armée des Indes qui participe en fait aux
campagnes. Qui sont avec les Britanniques,
qui sont avec les Britanniques, hein, qui participent à toutes ces campagnes et qui subissent des défaites très lourdes.
Voilà. Et quand vous parlez des hommes de cet officier allemand, j'imagine que ce sont des Africains qui ont été embauchés.
Des Africains. Et des Allemands, qui, oui, alors, dans chaque armée en Afrique, il y a un noyau d'Européens et des Africains. Pour la plupart des volontaires qui sont engagés en fait dans l'armée et d'autres qui sont plus ou moins de force, et puis des travailleurs. Alors lui, Letov Orbeck va développer une manière de commander très originale. Il est autoritaire, mais il va aller vers ses hommes et notamment ses soldats africains qui avec lesquels il va toujours garder des contacts, y compris après la guerre. Et donc il va apprendre leur langue, il va vivre avec eux et donc les fidéliser. Ce qui n'était pas forcément le cas dans l'armée britannique. Lui va réussir à créer une forme de cohésion dans cette armée, quoi.
On parle jamais de la Première Guerre mondiale en Afrique, mais ces combats ont eu quand même une réelle importance. Elles ont permis aux Alliés de récupérer des colonies allemandes. Puisqu'en 1918, il n'y a plus d'empire colonial allemand.
Il n'y a plus d'empire colonial allemand en Afrique et aussi en Asie, en Océanie. Hein. Alors en Afrique, ce sont les Français et les Britanniques qui se les partagent pour l'essentiel. Alors ça ravive aussi des tensions, parce que par exemple pour le Cameroun, bah, Français et Britanniques veulent leur morceau de Cameroun. Donc là, à nouveau, on est alliés. Mais là, il y a des tensions parce qu'il y a des rivalités coloniales. Mais pour les Britanniques, ça permet quand même de construire une ligne qui va quasiment de l'Égypte à l'Afrique du Sud, qui est entièrement britannique. Donc une transversale qui est entièrement britannique, ça c'est quand même un point important pour après la guerre.
Michael Bourlet, dans votre livre, vous parlez d'autres théâtres d'opérations périphériques de cette Première Guerre mondiale. On n'a pas pu tous les évoquer ici, bien sûr. La bataille de Romani dans le Sinaï, Sarikamish dans le Caucase, la guerre sous-marine, les combats en Mésopotamie et même des combats en Chine. Vous racontez qu'à Tsingtao, donc qui n'est pas qu'une bière, c'est un port colonisé par les Allemands en Chine qui est pris d'assaut par les Japonais.
C'est assez étonnant.
Fou,
alors c'est plutôt connu dans le monde des militaires parce qu'on est dans une opération amphibie puisqu'il y a des Japonais qui débarquent. On est aussi dans une opération de siège d'une ville, Tsingtao, et puis on est dans une prise de ville, une prise d'assaut. Alors on en parle peu finalement parce qu'on ne connaît pas très bien, mais toutes les puissances européennes avaient des comptoirs en Chine, hein, la France en avait aussi, et Tsingtao était le comptoir allemand. Et les Japonais vont en profiter pour mettre la main sur ce comptoir facilement. Ils vont même avoir des soldats anglais sous leurs ordres. Ça c'est assez étonnant. On en parle très peu aussi. Hein. Mmh. Et c'est un peu le signe de leur volonté impérialiste en Chine et en Asie, en fait.
Et il y a aussi des combats en Océanie, vous dites ?
Oui, des combats en Océanie, alors des petits combats.
Entre qui ?
Alors, entre Japonais, Néo-Zélandais, Australiens, contre des Allemands.
Des Allemands en Océanie.
En Océanie, parce qu'il y avait des îles, un certain nombre d'îles qui étaient en fait des îles colonisées par les Allemands. Alors c'est intéressant parce que je lisais le livre de Bruno Cabanne, Fantôme de Peleliu, et c'est intéressant parce qu'il évoque cette histoire. Parce qu'il y a eu des petits débarquements où on a chassé finalement les Néo-Zélandais ou les Japonais ont chassé une dizaine d'Allemands qui se trouvaient là, quoi. 20 ans plus tard, on se retrouve dans les combats de Peleliu qui sont des sommets de l'enfer, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans une guerre.
Est-ce qu'il y a des zones du monde qui ont été épargnées par la Première Guerre mondiale, Michael Bourlet ?
Oui, on peut dire que le continent américain l'a été épargné. Et puis le centre de la Russie, peut-être
La Sibérie.
La Sibérie. Encore qu'il y a eu des opérations en Sibérie. Hein. Hugo Pratt nous le rappelle, hein, nous montre ses combats, mais plutôt vers le nord, en fait,
ouais.
C'est-à-dire vers Bering, ça, là, c'est une zone où il n'y a pas de combat. Et puis sinon, les mers, eh bien, les pôles n'ont pas été concernés par les combats. Mais en revanche, toutes les mers, oui, tous les océans,
ouais.
Oui.
Et puis cette guerre était mondiale aussi par l'origine des combattants, hein, des Indiens, des Chinois, qui n'étaient pas forcément affectés au front, des Amérindiens, du Canada et des Américains, des Antillais et des Guyanais. Voilà.
Oui. Et c'est intéressant parce que je viens de Bretagne, et quand on discute avec les Bretons, ils ont découvert d'autres personnes qui venaient de partout du monde entier. En fait, on le retrouve dans les cimetières, la trace de ces gens qui venaient de partout.
Pendant la Première Guerre mondiale.
Mais eux ont aussi été découverts par d'autres. Et donc, il y a des mélanges qui se sont opérés, des rencontres qui se sont faites. Ça, c'est aussi un immense brassage, la Première Guerre mondiale.
Merci beaucoup, Michael Bourlet. De vous, on peut lire La Grande Guerre hors des tranchées, Tannenberg, Caporetto, Tsingtao, Jutland, Togoland, édité chez Perrin, avec le ministère des Armées. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin et Frédéric Martin. À la technique, Alex Olaré-Ouajou-Otinois. Vous avez pu entendre Bukavina Original de Chantel et Poussière d'or de Stéphane Escher, des titres choisis par Jean-Baptiste Audibert. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.